Le journal présenté par Alexandra Dubouchon.
Bonjour à toutes et à tous. Deux semaines de crispation, une trentaine d'heures de retard. La COP24 s'est achevée hier avec un accord, mais un accord au goût amer, nous dira Véronique Rébérotte dans un instant. L'acte 5 marquera peut-être un tournant dans le mouvement des Gilets jaunes. Deux fois moins de monde hier dans les rues que le samedi précédent. Reportage sur les Champs-Élysées à suivre. En Tunisie, l'espoir s'éloigne pour les victimes des récentes dictatures. Hier, l'État a brillé par son absence à la conclusion des travaux de l'instance chargée d'examiner les crimes passés. Et puis on vous parlera d'un genre numérique qui cartonne en Corée et qui commence à arriver chez nous, le webtoon, la BD sur écran. Depuis Paris, Emmanuel Macron a salué cette nuit l'accord conclu à la COP24 en Pologne. Bravo à l'ONU, aux scientifiques, aux ONG et à tous les négociateurs, a tweeté le président de la République. La conférence sur le climat s'est achevée avec un jour de retard vers 22h hier soir. Véronique Rébérotte, bonjour.
Bonjour.
Vous revenez tout juste de cette COP24 que vous avez suivie pour France Culture. Alors Véronique, les négociateurs se sont donc mis d'accord sur un mode d'emploi pour appliquer l'accord de Paris signé il y a 3 ans. Un accouchement au forceps, on va dire.
Et on comprend la joie du président polonais de cette COP, plutôt réservée, hein, debout sur la table, cette nuit content d'en avoir terminé avec un sommet climat tendu, avec toujours le risque même d'un clash, d'une rupture dans une négociation qui engage le monde entier. Engager le monde entier, devrait-on dire, car depuis le retrait des États-Unis de l'accord de Paris, ces négociations sont ouvertement perturbées de l'intérieur par des pays climato-sceptiques. Ça a été le cas depuis dès le début de cette COP 24, il y a 15 jours, le Koweït, l'Arabie Saoudite, des pays pétroliers, mais aussi les États-Unis et la Russie ont remis en cause les rapports des experts du climat qui nous donnent 12 ans, c'est le temps qu'il nous reste collectivement pour garder la température de la planète à 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Une remise en cause de l'alerte scientifique qui ne disait rien de bon, et c'est le Brésil qui est à l'origine hier du dernier blocage, impasse totale ces dernières 24 heures sur, c'est très technique, des règles de comptabilisation de crédit carbone, article 6 du document final. Finalement, l'essentiel de cette discussion a été remise à plus tard. Alors cette COP24 se solde donc, vous l'avez dit, par un document d'une centaine de pages. Il précise les règles d'application de l'accord de Paris conclu il y a 3 ans, la possibilité notamment d'appliquer ce qu'on appelle la transparence ou comment évaluer les efforts de chacun en matière de réduction de gaz à effet de serre. La Chine adhère enfin au principe, ce qui n'était pas gagné.
Oui, mais une COP déconnectée de l'urgence avec un fossé qui se creuse entre réalité du changement climatique et action politique.
Ce n'est plus un fossé mais même un gouffre maintenant. En Pologne, il y aurait dû avoir des annonces de chaque pays qui s'engage donc à réduire encore plus vite leur pollution, leurs émissions. 80 pays sur les 195 qui étaient présents ont fait des annonces en ce sens, mais beaucoup de petits pays, petits pollueurs, bien insuffisants pour contenir le réchauffement, s'inquiètent ce matin les ONG. Elles accusent des États de se dérober face à leurs responsabilités et de tourner le dos aux attentes des populations.
Merci Véronique Rébérotte. France Culture 9h03, cela a donc été un samedi beaucoup moins jaune que prévu selon le ministère de l'Intérieur. 66 000 personnes ont manifesté hier un peu partout en France, contre 126 000 le week-end dernier. Les plus gros rassemblements étaient à Toulouse et à Bordeaux, 4500 gilets jaunes, quelques échauffourées avec les forces de l'ordre. À Paris, les manifestants n'étaient que 3 000, mais ils restent déterminés. Reportage de Yann Gallic sur les Champs-Élysées.
Grégoire fait partie des irréductibles toujours présents sur les Champs-Élysées. Ce jeune homme de 21 ans travaille comme serveur en région parisienne en attendant de trouver un emploi stable. Il a rejoint le mouvement des Gilets jaunes dès les premières manifestations. Aujourd'hui, Grégoire est un peu déçu de voir la mobilisation faiblir. Déçu, mais pas abattu.
Il y a de la fatigue, il y a le froid, il y a les fêtes qui approchent. Mais je pense que le mouvement lui-même et le ressentiment ne désemplit pas. Et si aujourd'hui il y a un petit coup de mou, je pense que c'est pas terminé.
À l'approche des fêtes de fin d'année, la motivation des Gilets jaunes risque de retomber. C'est en tout cas l'une des craintes de Ninon, une jeune chômeuse qui habite en Bretagne.
Je pense sincèrement que ça peut être quitte ou double, ou ça va renforcer la colère que justement, là on est en train de passer les fêtes de fin d'année en se serrant la ceinture. Il y en a qui sont sur des ronds-points. Moi j'ai un ami qui dort dans une cahute depuis 3 semaines, toutes les nuits dans sa cahute sur un rond-point. Donc je pense que ça va être quitte ou double. Ou les gens vont vraiment abandonner parce qu'ils sont vraiment fatigués, ou alors les gens vont redoubler d'énervement et se motiver, se mobiliser à nouveau.
Mais Ninon n'a pas l'intention de renoncer. S'il le faut, elle est prête à passer Noël dans la rue ou sur un rond-point pour continuer à crier sa colère.
Yann Gallic pour France Culture. Et à Paris, la préfecture indique ce matin qu'il y a eu 179 interpellations, dont 144 gardes à vue et 9 blessés en urgence relative. Il y a aussi eu des rassemblements à Marseille et à Nantes hier avec un millier de personnes, à Lille, Lyon, Saint-Étienne ou encore à Caen. Et puis, que faut-il penser du RIC, ce référendum d'initiative citoyenne réclamé par de plus en plus de gilets jaunes? L'idée est de simplifier la procédure qui existe déjà aujourd'hui. 700 000 signatures suffiraient pour soumettre au vote populaire un texte de loi. Pour Jean-Marie Pernaud, chercheur associé à l'Institut de recherche économique et sociale, toute la question derrière, c'est la place qu'accordent nos institutions aux citoyens.
Ça pose quand même la question de ce qu'on appelait il y a quelque temps la démocratie participative, c'est-à-dire quelle place les citoyens ont dans notre République. Je pense que le fait que ça émerge avec une certaine force montre qu'il y a une aspiration quand même participative des citoyens. Ne plus se contenter d'être les sujets passifs d'une Ve République extrêmement verticalisée, et dans lequel d'ailleurs l'exercice d'Emmanuel Macron est loin d'avoir inversé la tendance. Et je pense que c'est un autre signal qui est envoyé au président de la République, qui pensait, il le dit depuis le départ, que la France avait besoin d'une autorité, d'une figure jupitérienne, puisque c'est comme ça qu'on l'a résumé, et que je pense que ce mouvement est un cinglant démenti. Les Gilets jaunes utilisent l'Internet massivement, et ils ont envie d'exister comme citoyens, d'avoir leur mot à dire. Et sur ce plan, je pense qu'il y a à réfléchir à l'évolution de nos institutions, mais en laissant beaucoup plus de place qu'aujourd'hui à la mobilisation, à la parole des citoyens, alors pas seulement des Gilets jaunes, hein, des citoyens dans leur ensemble.
Le politologue Jean-Marie Pernaud avec David Ravier pour France Culture. Direction la Tunisie, 8 ans après la Révolution, le pays espère faire la lumière sur les violations des droits de l'homme des régimes de Bourguiba et de Ben Ali. Hier, après 4 ans de travaux, l'instance Vérité et Dignité a rendu son rapport. Elle a auditionné 50 000 victimes présumées. C'est maintenant à la justice de faire son travail, sauf que, Maureen Mercier, le plus dur ne fait que commencer.
L'hymne national retentit dans la salle. Les victimes de la dictature se lèvent. Les chaises réservées aux représentants de l'État sont vides. Ni le Premier ministre, ni le Président n'ont daigné se déplacer. Le message ne peut être plus clair. L'État ne veut pas de cette justice transitionnelle. Sami, prisonnier politique sous Ben Ali.
Je suis ému.
Triste.
Plus que triste. Parce que l'avenir va être pire.
Les victimes attendaient maintenant les procès et les réparations. Mais face à cette absence, leurs espoirs s'évanouissent. La société civile, elle, reste déterminée, Fresh Phoenix, défenseur des droits de l'homme.
Ça aurait été une occasion pour renforcer la réconciliation nationale et pour mettre les balises concernant l'orientation du pays vers la démocratie et l'état de droit. Aujourd'hui, les autorités ont raté cette occasion historique. C'est très grave.
L'ensemble de la société civile a lancé un appel. L'État doit s'engager formellement à poursuivre le processus de justice transitionnelle. Appel resté, pour l'heure, sans réponse.
Maureen Mercier, correspondante de France Culture en Tunisie. Au Yémen, malgré l'accord sur une trêve trouvée avant-hier en Suède sous l'égide de l'ONU, on vient de l'apprendre, de violents combats et raids aériens ont lieu à Hodeïda depuis ce matin. Retour en France, on s'intéresse à un nouveau genre numérique, la bande dessinée sur écran, ça s'appelle le webtoon, contraction d'internet et de cartoon. Alors que la bande dessinée papier se porte plutôt bien, certains professionnels croient vraiment à un marché du webtoon. Explication avec Audrey Dumain.
On peut le lire sur la tablette, l'ordinateur et même le smartphone. Comme toutes les BD numériques, le webtoon s'est totalement adapté à l'écran. Il reprend tous les codes de la BD, les bulles, les dessins, les vignettes, sauf qu'il se lie et se déroule à la verticale comme un fil d'actualité. Mais ce qui le différencie le plus de la BD classique...
Le webtoon est un véritable format de série.
Didier Borg est le fondateur de Dailytoon, une plateforme de webtoon française.
On va trouver des épisodes qui sont publiés à date fixe. Donc on se rapproche finalement des dimensions audiovisuelles, c'est-à-dire qu'il y a tout un système de publication.
En Corée, le webtoon est devenu un véritable phénomène. En 15 ans, cette bande dessinée numérique a totalement supplanté le papier.
Pour vous donner une idée, il y a un Coréen sur deux qui lit du webtoon tous les jours. Ça s'explique plus pour des questions historiques. L'expression en bande dessinée, elle date des années 90 et donc très près après, on a eu l'émergence d'Internet.
Mais en France, c'est une toute autre culture et la BD numérique n'est pas prête de remplacer la BD classique. Pour Didier Borg, il y a la place pour deux.
On place la bande dessinée dans un marché où elle n'est pas aujourd'hui. On nous dit toute la journée, les jeunes sont complètement déviés de la lecture par leur smartphone. Eh ben, on n'a qu'à mettre de la lecture dans les smartphones. C'est meilleurs moyens de les récupérer.
Encore faut-il trouver un modèle économique qui soit viable. Aujourd'hui, les auteurs de BD numériques français ont du mal à trouver des financements. La plateforme d'Editoon rachète, elle, des BD sud-coréennes pour les traduire en français et ce n'est pas gratuit.
On démarre gratuitement jusqu'au 4e épisode. À partir du 4e, ça devient payant. Très clairement, on est entre la moitié du prix d'un livre et le tiers. 30% à 50% du prix du livre si on se met à compter les cases et à les imaginer dans du papier.
Aujourd'hui, Delitoon rassemble près de 500 000 inscrits et Didier Borg vise la rentabilité d'ici l'année prochaine.
Voilà, le webtoon peut être une idée pour Noël et pour en savoir plus, c'est sur franceculture.fr. La météo de ce dimanche matin, temps encore perturbé avec un ciel couvert dans la moitié nord, quelques éclaircies sur la façade atlantique et au centre, de la pluie dans le sud du pays, les minimales comptaient entre -3 et 15 degrés du Grand Est à la Corse.